Albert Sim, Monsieur Martin, pêcheur. Le mensonge est un bien vilain défaut qui joue souvent à ceux qui en sont affligés de fort désagréables tours. C'est leur punition, et quand un menteur est ainsi pris au piège, nul ne le plaint d'ordinaire et chacun en glose et s'en amuse. J'en vis un exemple où, il y a de longues années, près de 40 ans, mais le souvenir de l'aventure m'est encore aussi présent à l'esprit que si elle datait d'hier. J'avais à cette époque la passion de la pêche à la ligne, et malgré la grande différence d'âge qui existait entre nous, je m'étais lié avec un de nos voisins, un aimable et placide rentier, qui professait les mêmes goûts que moi et, comme moi, ne quittait pour ainsi dire pas les bords de notre rivière de l'Ornain ou le talus du canal. C'était là, d'ailleurs, que nous nous étions rencontrés et avions, peu à peu, fait ample connaissance. Il s'appelait M. Martin, mais, pour le distinguer de ses homonymes assez nombreux dans la ville, on n'avait pas tardé à joindre une épithète à son nom et à le baptiser, d'après la plus constante de ses occupations, M. Martin, pêcheur. Il pouvait avoir alors une 60aine d'années. C'était un homme de taille moyenne, bien pris, vert et vigoureux encore, aux cheveux grisonnants, aux joues couleur de brique, et toujours très méticuleusement rasé. Quoique n'ayant guère l'apparence martiale, il sortait de l'armée où il avait rempli dans les bureaux, intendance ou ambulance, je ne sais quel emploi, et il vivait de sa pension de retraite. Tant il y a qu'aussitôt hors des fonctions, à peine installé dans notre voisinage, au sommet de la Grand Rue ou Rue des Ducs, M. Martin se consacra tout entier, sauf bien entendu durant le temps prohibé, à la pêche à la ligne. Ce goût et cette ardeur pouvaient sembler d'autant plus étonnants qu'il n'était encouragé par rien et que presque toujours, notre pêcheur rentrait bredouille. Mais quel beau coup il avait manqué! Que de superbes brochets, de magnifiques truites, d'admirables perches, d'incomparables carpes avaient toujours happé ses amorces, rompu ses lignes, emporté ses hameçons. Oh, il s'en est fallu de bien peu! C'était plaisir de l'entendre narrer ses quotidiennes prouesses et ses non moins continuelles déceptions. Il y mettait un accent de vérité qu'on ne pouvait méconnaître, tout à fait persuasif, émouvant et entraînant. Comme beaucoup de ses pareils, M. Martin Pêcheur finissait par être convaincu tout le premier des mensonges qu'il débitait, par croire que c'était arrivé. Plus que personne, Mme Martin, une petite femme toute courte et toute ronde, qui ne sortait jamais qu'en chapeau et en dimanché, et était toujours prête à se remuer, à se trébousser et à sautiller malgré ses 50 printemps et son obésité, était accoutumée aux fantasques récits de son mari, et elle ne riait et s'engaudissait sans scrupule à son nez, sinon à sa barbe. « En attendant, tu ne nous rapportes jamais rien, pas même une petite friture » concluait-elle volontiers. « Mais ma bonne, c'est pas ma faute !» répliquait invariablement. « Oh, s'il ne laissait pas échapper, tu verrais, oh, tu verrais !» Un matin de septembre, M. Martin Pêcheur reçut une lettre d'un de ses neveux, juge de paix dans le nord du département du côté de Montmédy, qui l'informait de son arrivée pour le lendemain et de son intention d'aller lui demander à déjeuner. Les deux époux se firent fête de recevoir ce parent qu'ils affectionnaient beaucoup et n'avaient pas vu depuis plusieurs années. Sur le champ, Mme Martin composa le menu du déjeuner en question et se promit de le soigner. « Nous aurons, dit-elle, un poulet rôti à la broche. Je commanderai un pâté chez grand-mère et un de ces succulents pâtés. » « Et moi, je vais aller à la pêche, » répliqua M. Martin. « Les truites abondent entre Savonnières et Longeville, assure-t-on. Oh, si je pouvais en attraper une d'une livre ou deux. Ce serait trop beau, acheva madame avec un de ses fins sourires habituels. Oui, moque-toi de moi. À ton aise, riposta monsieur, sans se fâcher. Je vais m'efforcer de te convaincre que je ne suis pas si maladroit. Ben, il est temps, mon ami. Jusqu'à 4 heures de l'après-midi, monsieur Martin Pêcheur erra, ligne en main, le long de la rivière, entre les saules qu'il aborde au-dessus du village de Savonnières, notamment autour des belles fosses réputées si poissonneuses qu'on rencontre dans ces parages. Il n'avait encore capturé qu'un chétif goujon et venait de se poster à un tournant près de la fosse dite la Grande Brèche, quand il vit venir à lui un braconnier maraudeur, un bribeur en patois local, célèbre dans la contrée et qui répondait au nom de Coquillard. Tisserand de son métier, mais métier qu'il n'exerçait que par intermittence et rarement, Ulysse Coquillard passait le plus clair de son temps à rôder dans les bois, à plonger dans les bièves du canal et les trous de rivière, et ne vivait guère que du produit de ses chasses illicites et de ses pêches clandestines. Il avait du reste à cette époque de nombreux imitateurs et concurrents, les Garnereaux, les Jean le Malabre, etc., qui trouvaient comme lui, dans nos forêts de Massonge et du Haut-Juré, aussi bien que dans l'Ornain, la Sault et le Canal, leur moyen d'existence préféré. Coquillard s'approcha de monsieur Martin, le salua poliment, lui demanda s'il était content de sa pêche, si cela mordait. Bon fort, répliqua l'autre tristement, en exhibant son unique et petite capture. Voilà tout ce que j'ai pris, tenez, coquillard. Et je suis ici depuis ce matin. Oh, Dieu, attendez, fait, vous n'avez pas de chance, monsieur Martin. Il y a cependant du poisson de ces côtés. Oui, mais c'est ce que tout le monde prétend. Oh, je serais très désireux d'en avoir aujourd'hui, la preuve par moi-même. J'ai demain mon neveu à déjeuner et je voudrais lui offrir une jolie pièce, un beau brochet, par exemple, ou une truite. Ah oui, je comprends ça. Bon, c'est tout naturel. Alors, il faut pas désespérer, monsieur Martin. Ça viendra peut-être. Bon courage. Et Coquillard continua sa marche et disparut bientôt derrière les saules trapus échelonnés le long des méandres de l'Ornain. Mais son souhait ne se réalisa point. La nuit tombait, l'heure de plier bagages sonna. Monsieur Martin Pêcheur n'avait pour tout butin que son infortuné goujon. Il s'en retournait mélancoliquement, mais néanmoins se disposait sans doute déjà à conter à sa femme, comme toujours, ses mirifiques exploits, inaccomplis et ratés, comme toujours aussi, lorsqu'il s'entendit appeler derrière lui. « Monsieur Martin, monsieur Martin !» C'était Coquillard qui accourait tout essoufflé. « J'ai votre affaire, monsieur Martin, deux belles truites !» Il ouvrit un sac où l'on entrevoyait deux poissons enveloppés d'herbe. Oh, pèse bien 2 livres chacune. Oh non, 1 livre tout au plus, rectifia monsieur Martin, empressé déjà de déprécier la marchandise pour la payer moins cher. Et combien voulez-vous? Ajouta-t-il. Oh, 10 francs, monsieur Martin. Ah, oh, vous plaisantez, coquillard. À ce prix, mon garçon, vous pouvez les garder pour vous, vos truites, dit monsieur Martin Pêcheur en tournant les talons. Mais Coquillard le ressaisit. Alors combien en offrez-vous? Mon 4 francs, pas un liard de plus. Oh, vous n'auriez pas le cœur, regardez-les donc. Mais je les ai bien vus. Mais soupesez-les un peu. Mais inutile, je m'en rends bien compte. Je vous en donne 4 francs, coquillard, et c'est plus cher encore que je les paierais chez un marchand de la ville. Vous n'êtes pas raisonnable, monsieur Martin. Mais c'est vous, coquillard, qui ne l'êtes pas. Et vous qui avez du monde à recevoir demain? Précisément, vous abusez de la situation. Mais non, monsieur Martin, mais non, j'abuse pas. Me permettrai pas avec vous. Allez, la preuve, donnez-moi 5 francs et l'affaire est conclue. Vous allez dire que je suis pas accommodant. Bon, allons, tenez, fit monsieur Martin Pêcheur, décidé à en finir, en tirant de sa poche une pièce de 100 sous qu'il glissa dans la main du braconnier. Il reçut en échange les 2 truites, les enferma précieusement dans son panier, puis reprit son chemin, ne tarda pas à réintégrer sa demeure. Il était tout fier, tout joyeux et radieux. À peine entré, il appela sa femme, et clignant malicieusement de l'œil, frappa du plat de la main sur son panier qu'il portait en bandoulière. Ah ah, tu vas voir, tu vas voir. Qu'y a-t-il donc? Mais tu vas voir, répéta-t-il triomphalement. Et il étala les 2 poissons sur la table de la cuisine. Sont-elles belles, hein? Madame Martin n'en croyait pas ses yeux et demeurait tout interdite. Jamais elle n'avait assisté à pareille fête. Deux truites? Oui, deux, et de taille de poids. Soupèse-les un peu, ajouta-t-il, comme venait de lui dire à lui-même Coquillard quelques minutes auparavant.
Mais comment as-tu fait?
Bégaya-t-elle. Bien, imagine-toi, j'étais prêt de revenir il y a une couple d'heures. Je l'avais encore autant dire, il y a un prix. Quand je m'avisais de pêcher à l'avance vive, tu sais, avec du fretin, un verreau pour appât. Et à peine avais-je lancé ma ligne à l'eau, j'étais à la grande brèche. Oh, je sens une très forte résistance. Je pique ferme, craque, et je retire. Celle-ci, tiens. Alors je regardis mon hameçon, je rejette ma ligne. Et ici, l'orateur, qui, habitué à mentir et à se duper lui-même, s'exprimait avec toute l'assurance que donne la vérité, fut interrompu par un violent coup de sonnette.
« Mais qui peut venir nous déranger si tard ?»
murmura Madame Martin en se dirigeant vers la porte. C'était Ulysse Coquillard.
« Madame, monsieur votre mari s'est trompé. Il m'a donné une pièce fausse. On vient de me la refuser à la minute. »
Une pièce.
Fausse, oui, madame. J'étais allé chez Tissoba, le marchand de tabac du bas de la grande rue, mais il s'en est aperçu aussitôt. Alors je viens d'essayer de la glisser à l'épicier du coin, là au Père Lorrain. Mais lui aussi a reconnu tout de suite. Pas mèche, elle est en plomb, madame. Examinez-la.
Je ne sais ce que vous me chantez, interrompit Madame Martin en congédiant ce vagabond.
« Il y a erreur. Mon mari, dis-moi, ne vous avons rien donné. »
Mais Coquillard ne lâchait pas ainsi la partie, et il se mit à riposter si vivement et à crier si fort que toutes les fenêtres d'alentour s'ouvrirent bientôt, et les passants commencèrent à s'attrouper devant la maison.
« Erreur, erreur, vous prétendez? Non, madame, il n'y a pas erreur. » C'est bien monsieur Martin qui m'a remis cette pièce il y a un instant. Nous étions dans la côte de Paulval, appelez-le. Demandez-lui, j'ai pas d'autre monnaie sur moi, pas d'autre pièce que la sienne, donc impossible de confondre. Elle est bien en plomb, voyez-vous-même. Attendez, je vais appeler le père Laura, il faut pas dire. Si monsieur votre mari était là.
Quand monsieur Martin Pêcheur se décida à se montrer, ce fut, je vous prie de le croire, avec la plus penaud des piteuses mines qu'on puisse imaginer.
« Donne-lui 5 francs, dit-il tout bas à sa femme, et qu'il nous débarrasse. »«
Mais pourquoi cet argent ?»«
Ben, c'est pour les truites, madame, hurla Coquillard. C'est moi qui les ai vendues à monsieur votre époux. »«
Ah, que me parliez-vous plus tôt ?» s'exclama madame Martin. Tout s'explique à présent. Oh, voici une autre pièce, ajouta-t-elle en remettant 5 francs au braconnier. Et elle est bonne, celle-ci, je vous le garantis. Vérifiez-la de près. Oui, madame, merci bien. Eh bien, le bonsoir, ajouta madame Martin en refermant lui. Ah, c'était pour les truites que tu as si dextrement prises à la morse vive, continua-t-elle en toisant son mari en éclatant de rire. Je me disais aussi, c'est drôle, lui qui rentre toujours avec son panier vide, enfin, le hasard est si grand. Alors, c'était pour ces deux truites, mais à ce prix-là, mon ami, je l'aurais trouvé de bien plus belle au marché. Oh, une autre fois, je t'en supplie, laisse-moi les acheter moi-même.